VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. Nigeria, le secrétaire d'État américain John Kerry est en visite ce mardi dans le nord du pays. Il a félicité l'armée nigériane pour sa lutte contre le groupe islamiste Boko Haram, mais aussi mis en garde contre les abus contre les droits de l'homme. La répression entraîne la défiance et engendre des terroristes, a déclaré John Kerry alors qu'il rendait visite au sultan de Sokoto, autorité locale et religieuse dans l'extrême nord du Nigeria. Votre pays a récupéré le contrôle d'une grande partie de son territoire, a souligné le secrétaire d'État, mais pour un combat efficace contre la violence, l'armée doit renforcer son engagement envers les valeurs que défendent cette région et le Nigeria dans son ensemble, à savoir l'intégrité, la bonne gouvernance, l'éducation, la compassion, la sécurité et le respect des droits de l'homme, a précisé John Kerry, en assurant que Washington continuera sa coopération militaire et humanitaire avec le Nigeria. De nombreuses ONG ont à plusieurs reprises accusé les troupes nigérianes d'avoir usé d'une force excessive ou d'avoir commis des crimes extrajudiciaires contre des supposés insurgés de Boko Haram. Le secrétaire d'État américain, qui a également rencontré plusieurs leaders islamiques, a exhorté les responsables des différentes religions du pays à se comprendre et à se battre ensemble contre l'ignorance. La veille, dans l'État voisin de Zamfara, 8 personnes ont été tuées par la foule pour avoir tenté d'aider un homme accusé de blasphème. Venant du Kenya, John Kerry, qui effectue sa 3e visite au Nigeria en moins de 2 ans, doit également s'entretenir aujourd'hui avec le président Muhammadu Buhari à Abuja, la capitale. Il partira demain en Arabie Saoudite, où il sera question du conflit yéménite, de la guerre en Syrie et de la lutte internationale contre le groupe État islamique. À noter que l'armée nigériane a annoncé aujourd'hui que le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, avait été sérieusement blessé et plusieurs commandants du groupe islamiste tués lors d'un raid aérien gouvernemental sur leur bastion dans le nord-est du pays. Mais l'armée nigériane a déjà plusieurs fois annoncé la mort de Aboubakar Shekau, qui réapparaît régulièrement sain et sauf dans des vidéos du groupe. Gambie, les États-Unis très préoccupés après la mort en prison d'un membre de l'opposition gambienne. Le 2e militant du Parti démocratique unifié PDU a décédé en détention depuis le début de la répression contre les manifestations dans le pays. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Solo Krumah avait été arrêté le 9 mai avec 14 personnes lors d'un rassemblement en faveur des réformes électorales. Il est décédé samedi dans un hôpital de Banjul où il avait été admis le 8 août après avoir subi une opération chirurgicale dont on ignore la nature, indique le PDU, son parti. Sa famille n'avait autorisé aucune intervention selon le PDU. Les États-Unis sont vivement préoccupés par la mort de Solo Krumah et inquiets des informations de mauvais traitements et de tortures contre les personnalités de l'opposition en détention, a déclaré le département d'État. Washington appelle à une enquête indépendante sur toutes les allégations crédibles de torture et de mauvais traitements et demande aussi à la Gambie de libérer tous les prisonniers politiques et surtout de cesser la répression à l'encontre de l'opposition.
En RDC, l'opposition au président Joseph Kabila a appelé à une journée ville morte aujourd'hui, qui est partiellement suivie à Kinshasa, mais ignorée dans plusieurs autres grandes villes du pays. L'opposition veut dénoncer la décision du facilitateur de l'Union africaine, le Togolais Edem Kodjo, d'entamer les travaux préparatoires du dialogue national en vue d'élections apaisées. Mais un autre groupe d'opposants pense que cette action ville morte n'est pas suffisante. Le professeur John Malala, membre du comité de coordination des forces acquises à la transition sans Kabila, à la commission électorale congolaise dans son collimateur, on l'écoute.
Si Kabila était éligible, les élections présidentielles auraient bel et bien eu lieu en 2016 dans les délais constitutionnels. Nous voyons dans l'histoire récente, ça nous renseigne qu'en 2006, dans une situation d'après les guerres, on avait les fichiers électoraux qui avaient été construits en 6 mois. Et nous parlons aussi qu'en 2011, les fichiers électoraux n'avaient pris que 4 mois. Alors, en 2016, Corneille Nangaa veut nous parler d'un fichier électoral qui doit lui prendre un minimum de 16 mois. Le monsieur doit démissionner, il est incompétent et il est corrompu par les pouvoirs en place.
Le professeur John Malala, membre du comité de coordination des forces acquises à la transition sans Kabila. Et puis au Gabon, la campagne présidentielle bat son plein à quelques jours des élections de samedi. Le président candidat Ali Bongo est partout alors que l'opposition brille par son absence, d'après l'AFP. Face à son principal rival, Jean Ping, 73 ans, Ali Bongo Ondimba, 57 ans, a sorti les grands moyens et joue la carte de la rupture avec l'ancien régime de son père Omar Bongo, resté 41 ans au pouvoir.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En RCA, plusieurs personnes accusées de charlatanisme ou de sorcellerie ont été battues ou lynchées par la foule. Cette pratique gagne du terrain, en particulier à l'intérieur du pays où l'autorité de l'État peine à être rétablie en raison de la crise que le pays a connue, nous dit notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Entre janvier et août 2016, au moins 110 personnes ont été accusées de sorcellerie ou de pratiques de charlatanisme en République centrafricaine. Ces personnes ont subi des traitements parfois inhumains, arrestations arbitraires, exécutions par des membres des groupes armés, lynchage par la foule ou encore forcés à quitter leur localité. Mi-août, au moins une personne est morte et une trentaine de maisons sont incendiées suite à une scène de jalousie qui a tourné au drame non loin de la ville de Paoua dans le nord-est. La montée de la vindicte populaire, parfois en présence des forces de sécurité dépourvues de moyens, inquiète même à Bangui.
Évidemment, cela nous inquiète. Nous sommes dans la jungle que chacun de nous doit appliquer ce qu'il pense ou bien ce qui s'est laissé emporter par ses sentiments et agir.
Si on prend quelqu'un, soit disant que c'est un sorcier, on a quand même une loi centrafricaine qui est là. Il faut passer la personne à la justice, demander au lieu de faire des lois personnelles. Ça, je vois ça, c'est pas du tout normal.
Je pense qu'avec cette montée, il est temps qu'on puisse arrêter cette pratique parce que c'est pas bien de faire la justice à son niveau.
Pour l'ACAT, l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture et de la peine de mort, l'absence de la justice légale a laissé libre cours à la vindicte populaire. Son président, l'avocat Guy-Antoine Dangavo, appelle à des mesures judiciaires contre les auteurs de ces actes.
Nous pensons qu'il y a une justice légale, une justice institutionnelle, et donc c'est l'absence de la justice à des endroits qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nos concitoyens pensent que le meilleur moyen, c'est de faire justice soi-même. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de situation, nous ne pouvons pas croiser les bras. Pour notre part, il faut que les autorités prennent à cœur cette situation pour mettre la main sur les auteurs de ces faits et les traduire évidemment en justice. Puisque la tendance est aujourd'hui à la hausse et on constate que dans la moitié de l'arrière-pays, ces faits sont récurrents.
Le gouvernement, tout aussi conscient de cette situation, rappelle que des dispositions sont déjà prises pour que les auteurs des actes de justice populaire soient sanctionnés en conformité à la loi. Flavien Mbata, ministre centrafricain de la justice.
Les auteurs de ces cas de justice populaire doivent répondre de leurs actes devant la loi et ce, en tenant compte des dispositions constitutionnelles. Je suis en train donc d'instruire par circulaire tous les procureurs généraux et tous les procureurs de la République de notre pays, tous les OPJ de veiller dans leurs différents ressorts au strict respect de la loi fondamentale de notre pays ainsi que du code pénal.
Le week-end dernier, trois femmes accusées de sorcellerie, frappées, ligotées et jetées dans la rivière Ouam dans le nord du pays, ont surpris leur bourreau. Elles ont réussi à s'en tirer saines et sauves. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Présidentielle américaine 2016 maintenant, le candidat républicain Donald Trump a enjoint l'ex-président Bill Clinton et son épouse Hillary Clinton, candidate démocrate à la présidence, de fermer la fondation Clinton, entreprise très corrompue selon lui. Jacques Aristide.
Comme à l'accoutumée, Donald Trump n'a pas mâché ses mots. Les Clinton, dit-il, ont passé des décennies à se remplir les poches en s'occupant de leurs donateurs au lieu des Américains. Le candidat républicain a appelé la Fondation Clinton à rendre les dons aux pays qui, d'après lui, ont discriminé contre les femmes et les gays, une allusion à l'Arabie Saoudite et d'autres pays qui ont versé des millions de dollars à la Fondation au cours des années pendant lesquelles Hillary Clinton dirigeait la diplomatie américaine de 2009 à 2013. Le camp républicain parle de conflit d'intérêts. Des messages ont également été découverts récemment dans lesquels un proche de Bill Clinton à la Fondation écrivait à deux proches collaborateurs d'Hillary Clinton au département d'État pour demander à ce qu'un donateur de la Fondation, le milliardaire libano-nigérian Gilbert Chagouri, soit reçu par un responsable diplomatique américain au Liban. En fin de semaine dernière, Bill Clinton a annoncé qu'en cas de victoire de sa femme en novembre, sa Fondation n'accepterait plus de dons en provenance de l'étranger ou d'entreprises et que lui-même démissionnerait assemblée du conseil d'administration. Le directeur de campagne d'Hillary Clinton, Robbie Mook, a lui rappelé que la fondation fournissait des traitements contre le sida à plus de 10 millions de personnes ou qu'elle avait réduit le coût des médicaments contre le paludisme de 90%.